Bruxelles.
Bruxelles.
Ça bouge Bruxelles.
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 Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à Bruxelles nous habite pour ce mois d'octobre. Ouais, c'est ça, hein.
Mois d'octobre, ouais, je pense. Hein. Il pleut comme un mois d'octobre, en tout cas, c'est franchement...
Normalement, il pleut en novembre, non ?
Je ne sais plus maintenant, avec toutes ces dénominations de vacances de la Fédération Wallonne du Bruxelles, les vacances d'automne. Je suis un peu perturbé.
Il paraît que c'est la 60e aussi.
Ah oui, merci.
60e émission, et en plus, on s'est renommé. Est-ce que tu veux nous raconter, Craig, pourquoi on s'appelle maintenant Bruxelles nous habite et plus Bruxelles m'habite ?
Pour inclure tout le monde. Et surtout, tout le monde.
Et pour faire notre crise de maturité et se dire qu'en fait, les blagues, on n'en a peut-être plus besoin.
Oui, bah, celle-là encore moins.
En celle-là,
et Bruxelles est collective aussi, ce n'est pas une histoire individuelle.
Exactement. C'est le « nous » qui rassemble.
Oui.
Nous y sommes.
Nous. Et nous, qui sommes-nous en fait aujourd'hui autour de la table en fait ?
Eh bien, il y a toi, Laetitia.
Il y a moi, Laetitia, oui, tout à fait. Et à ma gauche, il y a...
Craig.
En régie, nous avons Liévin.
Hello.
Qui est accompagné de Audrey, qui vient observer la régie.
Tout
une
à fait.
Future technicienne panichéenne.
Et la voix qui vient de parler, c'est Arthur, qui est Arthur.
Voilà.
Et en invité, nous avons Léonie Jacquemin.
Salut. Salut. Léonie.
Léonie, qui est architecte et qui a écrit un mémoire qui s'appelle « Au chevauchement des marges, ambivalence d'une écologie située au sein du contexte bruxellois ». Et donc, on va parler longtemps avec Léonie de ce mémoire et de ce que ça nous évoque.
Et on aura probablement deux autres personnes invitées autour de ce plateau, on l'espère. Fanny Vinet et un autre camarade qui représente « We are Nature Brussels » pour nous parler de zones vertes à Bruxelles et de l'importance de les préserver.
Est-ce qu'on veut parler rapidement de pourquoi on les a invités au cas où ils ne nous rejoindraient pas, et comme ça on fait déjà le petit pitch de We Are Nature et Quid Kezako. Craig, c'est toi qui, je pense, connais le mieux.
Ouh,
tu me fais les grands yeux.
Toute cette pression sur mes épaules vocales ou mes cordes vocales. Eh bien en fait, We Are Nature Brussels, simplement... si ma mémoire est bonne, attention, partent du constat que la nature est à préserver aujourd'hui, pour aujourd'hui, et pas demain pour demain, tout simplement. Je pense que c'est la manière la plus simple de les pitcher, parce que, on va dire, toujours agiter le fanion, sinon les grands drapeaux du logement, est un faux argument pour bétonner les surfaces perméable bruxelloise et surtout les réserves naturelles, quel que soit le type de réserve naturelle et surtout leur, on va dire, histoire, que ce soit la forêt de Swine qui est classée ou alors le Marais Wills en passant par la Frie Josapha, le Dendenberg, Alaken et j'en passe et des meilleurs.
Et We Are Nature Bruxelles est au départ une initiative de l'ASBL Bruxelles Nature qui existe depuis les années 80 justement pour préserver tous ces espaces verts dont tu parles, Craig. Et c'est devenu une campagne, donc du coup, We Are Nature, et même une ASBL. Et donc, voilà,
fédératrice.
Fédératrice de tout le mouvement environnemental bruxellois. Et donc, il y a toute une, on va dire, procédure judiciaire qui est enclenchée ou en cours de. Mais ça, on en parlera avec nos personnes invitées un peu plus tard. Ou si elles ne viennent pas, on en parlera nous-mêmes. Avec
exactement.
Mais du coup, Bruxelles, qu'on aime, qui nous habite et qu'on habite, est-ce que c'est une ville francophone, Craig ?
Bien, c'est la question que je me suis posée parce qu'on va parler d'espace public. Et donc, je me la suis posée et j'ai essayé d'y répondre et je vais donc vous y inclure, justement. Et il y a quelques semaines d'ici, au pays d'Astérix et Obélix, j'observais moitié amusé, moitié déçu, l'affichage public bilingue, ce en français évidemment, et en breton. Amusé, je l'étais car cette langue aux origines celtiques m'est absolument inconnue. Déçu, car la politique mise en œuvre est, de mon point de vue bruxellois, maladroite. En effet, le breton est toujours affiché d'un tiers plus petit que le français. Tout aussi déçu par le fait que la systématique bilingue dans l'espace public semble aléatoire. Autrement dit, pas absolue. Il en va autant pour le mobilier urbain, garni de panneaux publicitaires pratiquant l'unilinguisme absolu. Quelle tristesse, pauvre breton! privés de la pub pour leur saucisson favori dans la langue de leurs aïeux. Dieu sait qu'en Bretagne, le cochon est une histoire d'amour ou de haine. Tout est une question de point de vue. Mais revenons à nos moutons, la langue, ou celle de bœuf, sauce madère. Pardon, je m'égare sur les traces de Jean-Pierre Coff. Alors, sur le chemin du retour, en gare d'un bled, marre de ma littérature bouddhiste, je me dis, tiens, j'irais bien faire un tour chez le libraire. Vous savez, une boutique où il est possible d'acheter un objet de consommation rapide imprimé sur papier, aux côtés d'autres à inhaler ou déglutir, avec ou sans alcool. Sur place, un courrier international hors série intitulé « La bataille des langues ». En soi, hyper, super, méga intéressant. Oui. Vous le croirez ou pas, mais parmi tous ces articles, il fut question d'évolution, apparition et bien évidemment, disparition. C'est un peu comme le stress hydrique. Pas assez de salive, la langue s'assèche. Ce racrapote finit par mourir. Sniff, sniff. Oui, oui. Ok, ok, 300 locuteurs perdus dans le nord-ouest canadien. Pff, tant pis, ils avaient qu'à pratiquer davantage la pêche au phoque et phoquer comme il faut pour mieux se reproduire, me diriez-vous. Bien, en fait, la survie d'une langue est beaucoup plus complexe que cela. Prenons l'exemple de Bruxelles. Aujourd'hui, nous y sommes en termes d'habitants, plus ou moins 1 200 000. Dont 90% s'expriment en français dans l'espace public. Une fois la porte du domicile, ce chiffre est ramené à 50% d'1 200 000. C'est-à-dire que les 50% restants, ou alors l'autre moitié, question de point de vue, parlent une multitude d'autres langues, dont le néerlandais à hauteur de, chers camarades d'antenne, le chiffre est à vous,
7.
Une autre idée ?
88.
Une autre, une dernière ?
40.
Arthur était le plus proche, 5%.
Mais 5%
de néerlandophones.
De 50%?
De 100% de bruxellois. Okay. Donc, il y a 5% de néerlandophones à Bruxelles. Et 15% de bruxellois s'estiment bilingues dans la langue de Vondel. Du coup, la flamandisation de Bruxelles à coût de 5% est peu probable, malgré tous les efforts consentis par les autorités flamandes en charge de sa diffusion, ce à coût de millions d'euros, hérissant les cheveux des politiciens, des politiciens les plus droitiers au nord du pays. Nous ici, on dit « Merci, beste vrienden ». Revenons un instant à une simple soustraction. 100% d'habitants moins 50 qui s'expriment dans une autre langue que le français à domicile, est-ce un indicateur de disparition du français ? Par exemple, nombre de restos ont uniquement un menu en « International English bas de gamme ». Et les exemples ne manquent pas. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Et si le français, à Bruxelles, était menacé ? Pour ma part, je suis francophone. C'est le cas de le dire. Depuis le début, cette chronique est dans la langue de Voltaire, ou ce qu'elle est devenue aujourd'hui en 2023 à Bruxelles. Tout est une question de point de vue. Attendez un peu. Nous sommes à Bruxelles, encore et toujours francophone dans l'espace public en 2023. Sauf qu'il y a 120 ans, en 1900, une grande majorité causait certainement le bruxellaire à la maison. Dans ce cas-ci, pure supposition, étant donné le manque de chiffres officiels. Sauf qu'une chose est certaine, le français à Bruxelles, et en de nombreux endroits à travers la planète, fut tout simplement imposé, au détriment des langues locales, autrement dit, les dialectes. Ah, quel vilain mot ! Oui, les élites du monde entier ayant élu le français comme lingua franca, nous l'ont fait croire à force d'éducation qu'il disait d'endoctrinement. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Je nais en 1980 à XL de deux parents italiens, eux-mêmes nés en Belgique, dal Borinage Mbiu, eux-mêmes nés de deux mères siciliennes, d'un père abruzzese et d'un lombard, chacun chacune parlant son dialecte. Attendez un peu. Comment se fait-ce que tout ce petit monde d'aïeux, aussi éclectique qu'il soit, ait pu se rencontrer ? Simplement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout il est cassé, partout. Et l'Italie, même si elle fut méchante en faisant équipe avec l'Allemagne, notre brave pays, la Belgique, qui sans plus attendre enchaînait sur une autre guerre, celle du charbon, va heureusement inviter l'Italie à discuter autour d'une table avec un plan d'enfer. Donc, bien ennemi en 40, mi-40, copain comme business. Et pendant ce temps, les pauvres gens, bah, ils sont encore plus pauvres qu'avant la guerre, surtout en Italie. Mais les politiciens, épaulés par les industriels, ont ce plan. Super ou presque. Envoyez-nous vos hommes les plus pauvres et dociles. Ouais. En échange, nous vous enverrons du charbon bon marché. Oui, parce qu'ici, en Belgique ou en France, en Allemagne, les locaux ne veulent plus descendre au charbon. Et à raison, pour un salaire de misère, il n'y a pas de raison de se salir la trogne et accessoirement les poumons. Hein. De fait, ce sont 77 000 travailleurs italiens qui viendront de 1946 à 1956, suivis par leur famille, à condition d'avoir prouvé leur docilité. Le tout dans des conditions quasi plus misérables qu'au pays. Le soleil et la sauce tomate en moins. Rassurez-vous, l'État belge a vendu son plan d'enfer à bien d'autres bronzés de naissance à travers tout le pourtour méditerranéen, afin de faire varier les plaisirs des xénophobes et racistes noirs, jaunes, rouges. Résumons. Les hommes au fond au charbon, les femmes à la maison au fourneau, les enfants à l'école pour bien apprendre comme il faut le français en Wallonie, le néerlandais en Flandre, bien évidemment, et défense de s'exprimer en wallon, en flamand, encore moins dans sa langue d'origine, cette langue de sauvage bronzé sur laquelle le maître est sans aucune prise. À la limite, les patois passent encore mi-année 50. Mais les langues étrangères, ça, non. Du coup, ce sont les enfants qui, fonction grâce ou à cause de l'école, ramèneront le français à la maison, avec pour effet la diminution progressive de la pratique de sa langue d'origine. La preuve, je suis la troisième génération, c'est-à-dire la deuxième née en Belgique. Et vous savez quoi? Je parle mieux anglais, néerlandais et espagnol qu'italien. C'est quand même fort comme acculturation. Je bute acculturation. Ah, ce qu'ils étaient forts, ces maîtres et xénophobes en tout genre, à taper sur le clou de l'accent de mes parents, faisant d'eux des italophones traumatisés ou bien des Italiens d'origine formatés au français. Preuve en est, jamais ils m'adresseront la parole dans la langue de Dante. Attendez un peu. Quatre grands-parents des quatre coins de l'Italie, qui restaient au pays, jamais ne se seraient rencontrés. Une guerre mondiale plus tard, un plan charbon on top, tous d'alborinage, bim, ils quittent, mes parents naissent, se rencontrent, me fabriquent à Bruxelles, sans pour autant m'apprendre la langue du cru, le bruxellaire. Encore moins leur langue d'origine. Tu seras francophone, mon fils, un vrai. Indeed, 12 années de radio au compteur, 17 d'écriture pour le plaisir, dont un sextennat à la télévision, et j'en passe dans cette galerie voltairienne. Oula, oula, que se passe-t-il? Comme un vertige, pour une fois autre chose que de l'épilepsie, serait-ce une prise de conscience? Je ressens comme un grand vide à l'intérieur, comme si j'étais en toc, comme si avec ce regard dans le rétroviseur, je m'apercevais de l'artificialité de mon existence, étant donné ma désolidarisation avec ma langue d'origine. Oui, mais quelle langue d'origine? En Italie, ils pratiquent couramment 400 dialectes. Mes grands-parents venaient chacune d'un lieu différent. Finalement, même l'italien est artificiel en Italie. Je défaille. Moi qui pensais savoir, moi qui me suis appliqué, même reconverti tout récemment en qualité de prof de français en Flandre. Je suis perdu. Je ne sais plus quelle langue je devrais parler. À l'aide, aiuto, helpen.
Oh, my God.
C'était quoi comme musique rec?
Alors, nous écoutions l'artiste qui s'appelle Francisco. Le morceau, c'est Filéo et ça vient directement de la Martinique. Un monsieur très important dans le milieu des années 50 et toute la vague de toute cette musique qui est là-bas, si ma mémoire est bonne, le Tumbélé et toute cette vague musicale.
Est-ce que tu l'as choisi pour la qualité de langue justement dont tu parlais avant dans ta chronique?
Tout à fait, tout à fait. Ici donc, ce monsieur s'exprime en créole. Justement hier avec Lévin, on a discuté de la différence entre ce qu'est un créole et ce que c'est un pidgin. Et juste avant, je vous avais justement dans ce texte parlé des dialectes. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique. Un créole, c'est quand les mélanges de personnes venues d'ailleurs créent une langue et cette langue va se transmettre comme une langue maternelle. Là où un pidgin, c'est ce même mélange, mais ne va pas se transmettre comme une langue maternelle.
Tout comme un dialecte ou un international English.
Voilà, un international English bas de gamme. Celui-là va rester entre des travailleurs, par exemple, et des travailleuses, alors qu'un créole va devenir une langue maternelle. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Et le créole, c'est grâce au mélange. Là où le dialecte, je n'ai pas la définition du dialecte, des origines ancestrales d'un dialecte, mais je trouve ça toujours très, très, très beau aussi à écouter, à entendre et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment passionnant, en sachant aussi que, pour avoir enseigné en Flandre, elle pratique encore dans certaines régions très, 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 très fort, voire beaucoup, les dialectes. Et je trouve ça toujours très, très fort et très beau à écouter, en fait.
Oui, je pense, parce que c'est toujours parlant, en fait, d'une relation que des gens ont l'un avec l'autre qui est très proche, qui est très territorialisée, qui... emblématique en fait d'un tissu social qui est fort, suffisamment fort que pour développer sa propre manière de parler. Et donc je pense que ça parle toujours de l'affect finalement.
Et ça justement, j'ai parlé sans qu'il y ait ta langue et la langue de ta communauté qui soit représentée dans l'espace public. Elle est juste vraiment verbale et une fois tous les lustres, tu l'entends à la radio et ou à la télé. Et où il y a une petite exposition, qu'elle soit amatrice ou amateur, et point à la ligne. Et c'est juste vraiment grâce à l'oral, grâce à toutes ces activités qui sont régionales, voire même villageoises. C'est ça que je trouve vraiment, vraiment beau.
Oui, ça m'a évoqué vraiment, parce que j'ai grandi dans des contextes bilingues anglais-français, en fait, c'est... Et revenant à Bruxelles, je suis redevenue francophone, en quelque sorte, parce que c'est redevenu une lingua franca que j'utilisais, la langue française. Et à chaque fois que je parle une autre langue au quotidien, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne ou une autre variante de moi-même. Et donc, ça me posait la question de qui sommes-nous, sinon la langue que nous parlons. Et je pense que si on peut parler une langue qui nous est propre, plutôt qu'une langue qui nous vient d'une institution qui a décidé de comment on devrait parler la langue, c'est aussi une expression de soi-même, en fait, mais aussi de sa communauté, de son groupe, de ses relations, de son tissu social.
Pour rebondir, moi, j'ai grandi dans des villes plutôt francophones et des métropoles multiculturelles. Au sein de la francophonie, donc, qui chacune a sa spécificité aussi linguistique. Et je suis très nul dans les autres langues, en fait, je pense que c'est parce que j'aime beaucoup trop le français pour en apprendre d'autres. Et pour revenir à ce point de 90% de gens qui, à Bruxelles, dans l'espace public, parlent en français. Mais moi, je trouve que c'est un chiffre plutôt encourageant, d'une certaine manière, parce que les gens, dans l'intimité de leur foyer, parlent d'autres langues, c'est plus qu'important, mais ça les concerne. Mais moi, dans mon quartier, par exemple, j'entends de l'arabe, j'entends du portugais, du Portugal ou du Brésil, j'entends de l'italien, j'entends du polonais. Et je me dis que c'est important, surtout dans des contextes multiculturel comme peut l'être Bruxelles, d'entendre toutes ces langues-là dans l'espace public. Mais c'est aussi important de pouvoir communiquer entre nous. Et voilà, il se trouve que Bruxelles est plutôt francophone. Si l'espéranto existait vraiment, en tout cas il existe, mais se propageait, ben, moi je l'ai un peu appris, c'est la seule langue que j'ai accepté d'apprendre ce serait super, mais c'est pas le cas. Et donc qu'on puisse, voilà, parce que moi c'est plus ma mon souhait dans une ville, dans l'espace public comme à Bruxelles, c'est que on puisse, dans la langue qui est actuellement le français, communiquer, aller dans des commerces où tu sais que tu peux parler et te faire comprendre. Voilà, et qu'après des gens parlent d'autres langues rattachées à leur culture, à leur origine ou à voilà leur contexte de traversée de vie. Ça montre une certaine richesse et une diversité.
Tout à fait. Habiter ensemble sur un même territoire, ça implique des langues, ça implique des manières de communiquer ensemble qui sont partagées, mais qui ne passent pas que par la langue. Léonie, on ne t'a pas entendu encore sur ta relation linguistique à toi-même et à le territoire que tu habites actuellement.
Oui, c'est drôle par rapport à ta réflexion. Moi, je le vis peut-être plus à rebrousse-poil, parce que j'ai appris le français comme langue maternelle. Et depuis que je suis à Bruxelles, je tente d'apprendre le néerlandais. Mais c'est une question récurrente qui revient, qui me dit « Mais pourquoi tu apprends le néerlandais ? À quoi ça te sert ?» Enfin, en tant que francophone à Bruxelles, pourquoi ? Et oui, pourquoi ? Parce que déjà, ça me fait plaisir, je crois, et que c'est important. Parce que je relationne avec une majorité de personnes néerlandophones. Et parce que, comme tu dis, dans l'espace public aussi, cette relation au français, j'ai l'impression que c'est un peu un jeu comme ça, de moi accéder au néerlandais dans mon quotidien. Après, il y a aussi l'anglais qui est dans un contexte plus professionnel et qui est bidouillé aussi. Donc, je trouve ça drôle de jongler de l'un à l'autre en fonction des contextes, des relations, des situations. Et que finalement, peu importe, on réussit à se comprendre, pas forcément avec la même proximité. Mais en tout cas, pour moi, c'est un apprentissage qui est vraiment joyeux. Ouais.
En parlant d'apprentissage joyeux, j'ai l'impression que le sujet de ton mémoire était, entre autres, lié à une curiosité joyeuse de Bruxelles que tu découvrais, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux parler un petit peu de... Comment tu es arrivée au sujet du mémoire, donc pour rappeler le nom, c'était au chevauchement des marges, ambivalence d'une écologie située au sein du contexte bruxellois. Donc, dans ce mémoire, tu t'ancres vraiment dans une spatialité, une territorialité qui est Bruxelles. C'est aussi la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui. Parle-nous un peu de ta découverte de Bruxelles, entre autres via ton mémoire.
Il y avait déjà des intuitions de départ un peu évanescentes comme ça. Et ça s'est formé au fur et à mesure, mais ça a commencé par l'écriture d'un article plutôt théorique au sujet de pratiques spatiales. Et à travers l'écriture de cet article, j'ai découvert un livre à Nastmonic qui s'appelle « Écologie queer » de Matthew Gandy, qui est un géographe britannique. Et là, ça a été une découverte assez folle pour moi. C'était super stimulant intellectuellement. Et je me suis dit, oh tiens, enfin, j'avais jamais pensé à ça, à lier des sujets de genre et de sexualité à une écologie. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé. Et il y avait aussi cette envie de pratiquer Bruxelles sur mon vélo, en rencontrant des personnes, et de ne pas être juste derrière mon ordi à rédiger un mémoire théorique comme ça. J'avais super envie d'aller sur le terrain, de même intervenir, parce qu'une des pratiques qui a été choisie, c'est le maraîchage. Donc, d'intervenir aussi pratiquement sur ces territoires-là, quoi.
Tu parles de l'écologie queer. Je ne sais pas si tu... Je pense que tu serais capable de synthétiser la théorie de Matthew Gandy en quelques mots, juste pour contextualiser pour les auditoristes ce soir le principe, enfin, ou le contexte dans lequel tu as découvert toi-même.
Ouais, c'est pas évident. C'est une théorie qui met en relation, disons, les institutions, les décideurs politiques et les sujets ou les individus. Sexuelle en concordance comme ça, et qui se demande comment est-ce que nos pratiques et nos conceptions de la nature sont formées par nos identités ou nos orientations ou nos sexualités. Donc c'est parti de ça, mais après je pense que ça peut s'étendre plus largement, mais on y viendra peut-être à d'autres formes de déviance. C'est accueillir de façon plus générale l'altérité et voilà, questionner un peu les cadres établis de là dans ce cas de l'urbanisation hétéronormée à Bruxelles.
Tout à fait. Et donc tu explores deux sujets principalement, donc l'agriculture urbaine à Bruxelles, mais aussi le cruising, qui est, si j'ai bien compris, le principe de rencontre sexuelle entre personnes, principalement des hommes, dans des espaces ouverts, si j'ai bien synthétisé. Et donc tu entames une démarche, et pour te citer, donc une démarche qui est exploratoire et qui avance à pas hésitants, en laissant place à de nombreux intervenants et intervenantes dans la construction du récit. Des intervenants et intervenantes qui ont été choisis du fait du rôle ou des rôles ambivalents qui, elles, jouent dans des situations parcourues que l'on pourrait qualifier de marginales. Marginales en cela qu'elles ouvrent des brèches pour remettre en question l'uniformisation de l'aménagement concerté et de la production ou reproduction urbaine. Est-ce que tu peux parler peut-être de cette pratique, cette démarche d'appréhender un territoire via une pratique curieuse, une manière, une exploration itérative en fait que tu as entamée, parler un peu de ta méthodologie en fait, c'est de ta manière d'arriver sur le terrain.
Peut-être avant de parler de la méthodologie en général, dissocier entre les terres cultivées de l'agriculture urbaine et le cruising. J'ai pas pu approcher ces deux pratiques de façon similaire, et ça semble un peu évident. Pour les agricultures urbaines, donc je me suis portée bénévole sur un terrain choisi à Anderlecht qui s'appelle l'espace test. Donc là, il y avait un rendez-vous assez régulier, hebdomadaire, dans lequel j'allais aider en fait les maraîchers, maraîchères, tisanières, fleuristes à cultiver. À cultiver leur terre. Et pour le cruising, la question de la légitimité s'est un peu posée parce que moi, je n'ai pas pratiqué ces lieux-là en tant que cruiseur, mais je me suis portée relais des voix qui pratiquaient ces territoires-là. Donc, c'était plus à travers des interviews, un travail iconographique, des rencontres qui ont fréquenté ces territoires-là et qui ont pu me raconter comment ça se passait. Et après, pour la méthodologie, j'aimerais lire un extrait de Donna Haraway qui parle du travail de Vinciane Després et qui dit, à propos de la pratique curieuse, « Ce genre de visite est une danse qui construit les sujets et les objets, une danse dont la chorégraphe est une farceuse. Poser des questions acquiert dès lors un autre sens. » C'est à la fois se demander ce que l'autre trouve intriguant et apprendre comment s'attacher à cela change chacun de manière imprévisible. Les bonnes interrogations ne viennent qu'à un enquêteur poli et plus spécifiquement à une enquêteuse polie, inspirée par un merle chanteur. Avec elle, même les erreurs et les malentendus peuvent devenir intéressants, voir ce qu'il y a de plus intéressant.
Merci pour cet extrait. Ça nous évoquait une pratique, une recherche, une conférence, en fait, qu'on a eu l'occasion d'enregistrer à Panique.
Oui, via Panique. Ça fait effectivement résonance à une conférence-discussion qui a eu lieu dans le cadre du festival Homographia, donc un festival festival queer de performance et de vidéos autour des sexualités au-delà des normes. C'était fin septembre et dans le cadre du coup de ce festival, il y a eu une conférence-discussion qui s'appelait New Territories of Sexualities. Alors c'est en anglais, mais la conférence est principalement en français. Deux des trois personnes intervenantes sont francophones. On aura l'occasion de l'écouter demain, vendredi, le 27 octobre, à 9h. Et donc on a isolé plusieurs extrêmes, mais un qui vraiment fait écho à cette question-là, cette démarche et la question aussi du savoir situé. Et donc on a envie de la partager. Donc on va entendre Laurent Guessade, qui est une des personnes invitées dans cette conférence débat, anthropologue de la ville, activiste et chercheur. Et donc on l'écoute donc parler des savoirs situés.
La question, effectivement, des savoirs situés reste dans le champ académique un énorme débat qui n'a pas lieu. Quand on voit qui, aujourd'hui, obtient des postes à l'université, ben, allez regarder du côté des études en genre et sexualité. Vous avez surtout des thèses sur le mariage, sur l'accès à la propriété, sur l'homoparentalité. Peu de choses sur le désir à proprement parler ou sur les substances, sur la drogue. On a affaire effectivement à des objets qui, parce qu'ils impliquent aussi les chercheurs et les chercheuses d'une certaine manière et en particulier corporellement, les discréditent au passage. Et pourtant, il est vraiment extrêmement important de continuer à revendiquer une ethnographie immersive, participative, à dire que nous donnons notre corps à ces sciences humaines et sociales, effectivement, pour le meilleur et pour le pire, et notamment pour cet ostracisme potentiel qui nous grille, y compris en tant que malade, quand on travaille sur la maladie, évidemment. Donc c'est compliqué et en même temps, aucun d'entre nous ne peut dire que ce n'est pas important de le faire. Dans le champ du sida, on a vu à quel point la parole des personnes séropositives a été extrêmement importante. Dans le champ des migrations, à quel point aujourd'hui la parole des personnes migrantes est importante pour comprendre effectivement cet envers et ce regard qui permet d'être analyseur en situation, quitte à provoquer des situations pour que les choses se dénouent une bonne fois pour toutes. Et on n'en est pas, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, c'est évident. Mais pour revenir à la question d'être situé dans ces lieux, ça reste effectivement dans le champ académique une vraie problématique, une problématique méthodologique qui est effectivement envisagée à intervalles réguliers. Heureusement que les chercheuses féministes sont allées très loin dans la manière dont il faut politiser le regard situé, mais on est encore quand même assez loin du compte.
Est-ce que tu veux réagir, Léonie ?
Je me rappelle de la distinction qui avait été faite aussi entre savoir situer, parce que là, c'est un peu ce dont je parlais dans le mémoire, partir du terrain. Et en fait, les savoir situer, c'est pas nécessairement partir du terrain de façon matérielle, mais c'est contextualiser et mettre en relation les personnes et les êtres en présence, quoi.
Et c'est un peu ce que tu disais juste avant, avec en tout cas une partie de ton mémoire et d'être personne relais.
Ouais, c'est ça, ouais. Carrément.
Et de mettre en lumière finalement les subjectivités, les manières d'appréhender une vie, un territoire, et de pouvoir relayer ça en histoire. Et d'ailleurs, tu portes la voix justement de tes personnes relais beaucoup dans ton mémoire.
Si je puis me permettre aussi, moi, en qualité de personne atteinte d'épilepsie, ça résonne ce qu'il a dit le monsieur, parce qu'en fait, il parle justement de personnes qui sont universitaires et qui sont en fait les personnes qui étudient les sujets, mais qui ne sont pas immergées dans les sujets qu'elles étudient. Pourquoi je fais le rapport avec l'épilepsie ? C'est qu'à travers 20 années de joyeuse fréquentation des centres universitaires hospitaliers, eh bien, j'ai été souvent confronté à des personnes qui, déjà, la qualité d'écoute est souvent, on va dire, pas formatée, mais polissée, mais surtout imperméable. Et surtout, il y a peu de personnes qui, on le sent très fort, dans tout ce champ-là, sont immergées dans leur champ d'études, en fait. Mais vraiment très, très peu. Et pourquoi ? Parce qu'elles vous donnent peu la parole, en fait. Elles écoutent peu, parce qu'il y a tout ce rapport à « Ah, vous venez pour ça, alors ne vous inquiétez pas, j'aurai la petite pilule qu'il vous faut. » Mais nous, ce qu'on demande, c'est d'abord d'être écouté, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on a à dire, et puis après, on avance vers quelque chose. Et c'est très rare, les gens dans leur champ d'études qui sont immergés dedans. Et souvent, il y a ces... Et après, par exemple, on en reviendra pour tout à l'heure, l'agriculture urbaine. T'as les gugus qui viennent, nous, je les suivis au champ d'écaille, ils viennent et puis c'est leur champ, par exemple, sans faire de mauvais jeu de mots, d'études, mais ils sont au-dessus comme ça. Pendant des années, ils sont spécialisés dans le truc, mais ils ne mettent pas les mains dans la gadoue. Ouais, ok, bah, et quoi alors ? Qu'est-ce que tu connais du maraîchage, qu'il soit urbain ou pas, si tu n'as jamais mis les mains dans la gadoue et que tu ne connais pas les us et coutumes sans... Voilà, et c'est ça qui est... Autant j'ai parlé d'épilepsie et autant j'ai parlé de maraîchage, mais ça se rejoint. C'est des gens qui sont on top, et qui font quelques observations, et puis qui reviennent, et puis qui surtout sont derrière à taper et faire du Excel pour faire de la stat.
Et pour se faire une carrière.
Merci.
Parce que finalement, il y a quand même une chose dans la professionnalisation du milieu académique aussi qui pose beaucoup de questions. Et je pense que ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans la lecture de ton mémoire, Léonie, c'est ce côté d'affect et de se laisser affecter finalement par son territoire d'études, son terrain d'études qui finalement fait partie de soi-même. Laurent parlait de donner son corps à son sujet. Je trouve ça assez prenant en fait comme manière de formuler la chose et ça m'évoque du coup une citation de ton mémoire où je pense que c'est toi qui écris donc nous voulons récupérer la capacité d'enquêter, c'est-à-dire de miser sur les comptes rendus des mondes qui devraient nous aider à construire le monde qui vient. Donc il y a une question de création en cours et que donc fondamentalement il y a là du désir. Nous avons soif et désirons la connaissance, les explorations, les expérimentations. Nous voulons sortir de nous-mêmes et nous connecter au monde réel, au pluriel et en devenir, par et à travers nos écrits. Et je pense que c'est... Je ne sais plus, j'ai mal cité à mon avis, je ne sais pas si c'était toi qui l'avais écrit, mais du coup je ne sais pas qui l'a écrit, malheureusement. Il faudra retrouver et mettre la citation dans la description. mais je pense qu'il y a cette question de... Ok, on doit, en tant que chercheuse... produire des textes, ça fait partie de la pratique en fait de l'académique. Mais tu as pris le pli dans ton travail de non seulement écrire, mais aussi d'y mettre ton corps. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de ça en fait.
Oui, et puis aussi peut-être avouer ou en tout cas reconnaître que parfois on parle de choses ou on s'intéresse à des choses qu'on ne connaît pas encore. Et c'est drôle que tu parles de la médecine parce que je trouve ça super de faire le parallèle entre les agricultures urbaines et la médecine parce que ça me semble fondamentalement lié. Et peut-être de prendre des raccourcis, enfin en tout cas que les professionnels ont tendance à prendre des raccourcis, c'est un peu quelque chose qui pose question aussi en architecture, enfin dans ces métiers de conception, d'urbanisation et d'aménagement concerté, c'est... comment est-ce qu'on fait pour arrêter de prendre des raccourcis et apporter des solutions à un problème qu'on a analysé en tant que tel, alors que finalement il n'y a peut-être pas vraiment de problème, mais une situation à comprendre d'abord. Et c'est un peu ce que j'ai essayé à faire dans ce mémoire-là, c'est l'aborder parce que c'était quand même dans le cadre d'un diplôme d'architecture, mais plutôt à travers des problématiques spatiales. Comment regarder un territoire et un terrain sans le stigmatiser ou lui poser l'étiquette d'une pathologie, quoi.
Ouais. Ouais, le parallèle est bien amené. Je pense que ta démarche du coup méthodologique s'inscrit vraiment dans une démarche féministe, finalement, une démarche queer, qui donc assume son attachement avec le matériel étudié. Et qui donne une valeur intrinsèque à cette matérialité, finalement, à cette corporalité de la démarche ethnographique. Et pour faire un segue complètement queer, enfin, je sais pas, parlons de diversité. En fait, je vois que ça fait 45 minutes qu'on est à l'antenne. Je propose qu'on passe en musique. Et qu'on écoute une proposition que tu nous as amenée, Léonie, de Mélodie Blaison, qui s'appelle Queer Utopia. Donc, Lévin, si tu peux lancer ça, ce serait super.
Thank you.
Alors, nous voyons... Qu'est-ce qu'on voit ?
Une personne qui cueille des pissenlits. Elle a un pull vert.
Dans un paysage bucolique, verdoyant, même si c'est plutôt en couleur grisée.
Il y a des saules, trois, qui ont presque la taille des bâtiments de, qu'on imagine de logements sociaux au fond.
Logements sociaux, dit, ma chère, au loin qui prend l'eau, ne serait-ce pas ce qu'on voit, c'est-à-dire les étrimaux d'Anderlecht. Hein.
Oh, tu sais mieux que moi.
On serait dans une zone urbaine, malgré toute la verdure que nous montre ce beau dessin.
Quand même. Dernier petit truc un peu urbain, regardez,
C'est des câbles électriques.
Belles câbles électriques. Oh, carrément. Oh, ces ondes qui, justement, frétillent.
Mais effectivement, en premier plan, nous voyons des gens affairés à cueillir, récolter,
planter, semer, porter.
Il y a des brouettes, mais il y a aussi, est-ce que c'est des tombes ?
Ben oui, parce qu'il y a le cimetière d'Anderlecht juste à côté.
Ah oui, tout le monde apprend des choses que connaît tellement bien, Greg. Où est-ce qu'on est ?
Alors, nous sommes donc à Anderlecht, Vogelsang, et pour aller au Vogelsang, le plus simple en transport en commun, c'est d'aller à la station de métro Eddy Merckx.
Non, tu prends ta voiture et tu vas au parking d'IKEA, et puis après...
Merci Arthur.
Il est gratuit le parking d'IKEA, voilà. Au moins.
Donc, donc Eddy Merckx en STIB, MIVB, qui à partir de 2024 va augmenter ses tarifs de 6,8%.
On digresse.
Il n'y a pas de vélo d'ailleurs sur ce paysage qu'on regarde, qui est un dessin.
Oui, en format très très paysage panoramique. Un dessin donc réalisé par Léonie.
Oui, c'est ça.
Et donc, on a envie un peu de poursuivre sur cette manière de procéder, que tu as, ta manière de procéder pour cette recherche. Et donc, le dessin fait partie de l'observation, de l'in situ.
Pour rendre visible ce que j'ai observé et ce à quoi j'ai participé sur ce terrain d'étude, qui n'est pas uniquement un terrain d'étude, mais qui est un terrain où il se passe plein de choses. Donc, ce que vous avez décrit, c'est ce que j'ai essayé de moi de retranscrire.
J'ai menti d'ailleurs, il y a un vélo, je viens de le trouver.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans justement le fait de... on parlait un peu de faire corps avec le sujet, avec le terrain. Dessiner, c'est une posture un peu différente que mettre les mains dans la terre, par exemple, pour prendre l'exemple de l'agriculture urbaine. Qu'est-ce que ça amène ? Qu'est-ce que ça permet ?
Je crois que c'est un outil de médiation qui, pour moi, est créatif. Pour parler de ce lieu-là, il y a plein de choses rigolotes dont j'ai envie de parler, des petites anecdotes. Le long de la vallée du Vogelsandbeek, c'est une zone naturelle protégée. Et ce qui explique la présence de pylônes électriques, ce qui explique qu'il n'y ait pas de construction, en tout cas pas d'habitation dans cette zone-là. Et c'est des choses que j'ai comprises en étant en fait sur place et en y passant du temps, que tu peux comprendre, j'imagine, en lisant des documents d'urbanisme ou autres.
Ou pas.
Ou pas, voilà. Ne pas se farcir le travail un peu fastidieux. Mais le faire autrement, le faire par soi-même, en observant et en prenant le temps, pour moi, c'était chouette comme ça. Et donc, dans cette zone protégée naturelle, c'est aussi un espace qui est soumis aux crues, dont les berges sont parfois retravaillées par une association de bénévoles qui viennent tailler des branches et tisser des haies. Donc il y a plein d'histoires comme ça qui se tissent quand ils regardent un peu plus près. Et même une des personnes qui était tisanière à l'espace test me disait que c'était aussi un des endroits dans lesquels elle allait récolter ses feuilles pour ses tisanes, parce que c'était un endroit peu pollué. Ouais, voilà, regardez comment les choses s'entremêlent.
Découvrir des paysages plus en profondeur que le premier regard, finalement, qui nous donnerait une image simplifiée, je pense. Et,
Et je sais qu'en urbanisme, on a tendance aussi à beaucoup regarder ou appréhender des territoires via des cartes qui nous donnent une lecture très spécifique d'une terre qui finalement semble deux-dimensionnelle alors que ne l'est absolument pas.
Et postuler aussi.
Et postuler sur
spéculer.
Base de ça. Oui,
et si, qu'est-ce qui se passe? Et si le compost de l'espace test peut servir à rempoter les pots du cimetière? Et si la tombe du cimetière peut servir à couvrir les terres cultivées de l'espace test? Et voilà.
Se poser des questions.
D'autant que j'ai lu un article récemment sur la qualité de la terre du cimetière d'Anderlecht, qui est une des plus formidables à Bruxelles récemment pour ses analyses, et d'autres cimetières surtout qui ont arrêté d'utiliser les pesticides depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est des terres vraiment formidables sur des hectares et des hectares et des hectares de terrain depuis maintenant une décennie. Et c'est à prendre en compte aussi dans toutes ces qualités.
Oui, donc moi, depuis la régie, en fait, ça m'intéresse beaucoup. Donc je suis candidat pour une place là-bas.
Il faut être un mort de qualité, hein, manifestement.
Il ouais, faudrait que je devienne Anderlechtois au bon moment, en fait.
Non, en fait, si tu veux, il n'y a pas que la relation au fait d'habiter dans une commune pour aller dans un cimetière. Tu peux aussi faire le choix. Et donc, ça s'appelle une concession et ça se paye, ça, mon vieux. Tu sais, un cimetière, c'est payant. Hein. Les seuls lieux où il est interdit aujourd'hui d'aller, c'est les cimetières qui sont... j'ai pas le bon mot, mais qui sont déclassés, entre guillemets. C'est pas le bon mot. Donc,
mais moi, je m'en fous du cimetière to be. C'est pas ça. Moi, je veux voir déjà plus loin d'être composté au Vogelsangbeek.
Ah, composté. Ah, tu veux être humisé. Je crois que c'est l'humisation. Ça, c'est le bon mot. Je sais pas pour le verbe, mais figure-toi qu'aujourd'hui en Belgique, c'est toujours illégal. Parce que ça fait de nombreuses années que j'y pense, personnellement. Mais en Belgique, c'est toujours illégal.
On n'a pas le droit de devenir compost.
Non, c'est toujours illégal. Tu dois être mis dans la terre, peu importe si ton cercueil est en telle et telle et telle matière. Moi, je fantasme beaucoup sur, par exemple, tu sais, ce avec quoi on fait les chaises?
Du rotin?
Non, tu sais, on tresse les chaises. J'ai un trou de mémoire.
Du rotin.
Ouais, du rotin, de la paille.
Oui, voilà. Pardon, excuse-moi. Donc un cercueil en paille, tu vois, parce que ça...
Juste... Ça se composte bien.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est autorisé. Mais tu dois être enterré dans un cimetière. Tu n'as pas le droit de faire une demande. Je suis un grand fan de la forêt de soie, zo nine wout. Mahi. Nee, meneer. Non, tu ne peux pas. C'est pas autorisé. Oui, mais ce sera très profond. Non, voilà, c'est...
C'est une question de santé publique, je pense, et c'est une question de désaffectation des espaces et des sols et de comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble dans des territoires qui sont compacts. Pour l'anecdote, je sais qu'aux Pays-Bas, ils créent maintenant des cimetières-forêts, donc des zones qui sont affectées en tant que cimetières, mais pas vraiment des cimetières. Donc, c'est des forêts où tu peux être planté. Donc, tu es, toi, en dessous d'un arbre qui va pousser de toi. Et puis ta descendance ou pas peut se balader parmi les arbres qui entre autres t'incluent. C'est une chouette pratique, je trouve, mais je pense qu'on n'en est pas là. Des politiques aménageuses, Arthur?
Oui, j'ai l'impression que ça nous amène un peu sur ce sujet-là. Donc on revient sur un extrait de cette conférence, donc New Territories of Sexuality, donc les nouveaux territoires de sexualité, qui a été diffusé, enfin qui a eu lieu dans le cadre du festival Homographie à fin septembre, et que vous pourrez entendre demain à 9h sur Radio Panique. Un autre extrait avec toujours Laurent Guessad, qui est donc anthropologue de la ville, entre autres. Et justement, ça parle de, des politiques d'aménagement du territoire.
Il y a toujours ce mouvement de recomposition territoriale permanente à même l'espace public. Et ça, c'est très lié à des politiques publiques d'aménagement. Qu'il s'agisse de Bruxelles, de Marseille ou de Barcelone, on va avoir quasiment tout le temps une volonté municipale d'éradiquer ces lieux. Hein. Au nom de l'embellissement, au nom de la rénovation, on éclaire, on élague, on ferme les grilles, etc. Et du côté des dragueurs, ben, on prend des tenailles, des pinces, on trouve les grilles. Au contraire, sur les aires d'autoroute, on peut accéder directement aux camionneurs et à ces grandes mobilités transnationales en étant dans un petit village à côté, parce qu'on a simplement une tenaille qui permet effectivement de percer le trou, de faire un trou et de rentrer et d'accéder. Donc il y a systématiquement un chassé-croisé entre les politiques aménageuses et la manière dont les lieux se recomposent pourtant sans cesse Donc moi, j'ai du mal à penser qu'ils disparaissent dans la mesure où je les vois systématiquement réapparaître, au contraire.
Donc voilà, c'est aussi pour un peu amener cette question de la ville qui gère ces territoires, et donc qu'est-ce qu'elle décide d'y mettre ou de pas y mettre,
qu'est-ce qu'elle veut montrer,
qu'est-ce qu'elle veut montrer ou pas montrer,
que dit le PRAS,
le PPU, oui, le PR.
Est-ce que c'est bien du coup bien vu d'avoir des espaces agricoles urbains aujourd'hui en 2023 à Bruxelles? Et pour faire un lien aussi avec ton double sujet, et qu'est-ce qu'on pense du cruising, par exemple, au Parc Royal? Est-ce que ça, on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Voilà, ça
tolère.
Pose un peu...
Est-ce qu'on le tolère?
Est-ce qu'on le tolère, oui.
Oui, parce que c'est toute cette grande différence entre accepter et tolérer.
Tu veux...
Ou encourager.
Oui.
Comme c'est le cas, je pense, de l'agriculture urbaine, où en tout cas, les politiques publiques ont tendance à bouger vers une promulgation de l'agriculture urbaine, mais certaines formes de l'agriculture urbaine, donc notamment des espaces comme les espaces tests, des projets comme ceux de DBD Haricot, pour en citer quelques-uns. Léonie, toi qui connais en tout cas le cas de espace test, est-ce que tu as senti quelques éléments par rapport à ces politiques d'aménagement?
Quand j'ai écrit ce mémoire dans le Presse, l'espace test, je crois qu'il avait affectation d'habitation. Je ne sais plus si c'était logement collectif ou je crois que c'était habitation en général. Et aujourd'hui, l'espace test est encore en activité et encore certainement pour un petit bout de temps. Mais ça reste une situation précaire et fragile en fait, parce que c'est des personnes qui postulent pour s'installer sur ces terres de 3 à 5 ans avec un peu de prolongement parfois. Mais qu'est-ce que ça veut dire cultiver une terre pour si peu de temps? Parfois, ça ne fait pas sens d'un point de vue écologique quand tu installes des petits fruits, des groseilliers ou des plantes vivaces qui, comme ça, évoluent sur du long terme. Est-ce que, du coup, tu dois les déplanter une fois que tu pars? Est-ce que quelqu'un prend le relais? Donc, il y a une bonne ambition, disons, mais comment est-ce qu'elle se pérennise? Il y avait des fonds européens FEDER au début de l'espace test, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça reste un peu une question ouverte.
Pour rappel, pour les auditorices, on avait fait une émission sur les acronymes de l'urbanisme. Je ne sais plus dans quelle émission, quel numéro d'émission c'était. Mais le PRAS, c'est le plan régional d'affectation du sol. C'est la carte à colorier de Bruxelles qui dit qu'est-ce qu'on peut faire où. Et donc une zone d'habitation, comme l'espace test à Anderlecht, mais aussi comme le champ d'écaille que Greg ici connaît très bien, sont des espaces qui sont voués à devenir habitats et donc constructibles, et donc ne peuvent pas être laissés long terme dans la politique d'aménagement en tant que zone agricole. Et en fait, on a très peu, si pas aucun, espace agricole dédié en tant que tel dans la région Bruxelles-Capitale.
Sauf des espaces privés dans la commune Anderlecht, qui est la dernière commune agricole bruxelloise. Mais de nouveau, ce sont des espaces privés qui appartiennent à des fermiers. Et c'est de nouveau toute cette différence entre une politique agricole qui désigne, et donc on est un petit peu comme à l'époque de l'URSS. Et on avait de la planification, ou alors on est de toute façon dans le principe du privé. Ce sont les terres de X, Y ou Z. Et puis, ils sont seuls dans leur gros camion. Et il y a du retournement de sol, plein de pesticides et basta.
Et basta. En parlant d'agriculture, Léonie, est-ce que tu peux nous lire un petit extrait de ton mémoire?
Alors, c'est une citation qui est extraite d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Terre des villes, enquête potagère aux premières saisons du XXIe siècle » et qui nous dit « L'agriculture, qu'elle soit urbaine ou pas, pratique ou théorique, insiste au contraire sur la pluralité des dimensions de ce qui fait nos vies, une ville ou un milieu écologique qui ne peuvent être traités dans un cas de compétitivité économique. La culture des terres, c'est aussi une question existentielle, une question de rapport au sol, aux plantes, au temps de vie et de mort, à la finitude, au cycle et à la génération, aux relations interespèces, à ce que nous voulons manger et comment, à la production d'une autonomie relative et quotidienne, à nos identités et à la manière dont elles se construisent. Les potagers en ville font partie d'un milieu complexe qui coproduit nos sociabilités, nos subjectivités, nos sensibilités, nos natures.
C'est un extrait donc de Terre de Ville, enquête potagère aux premières saisons du XXIe siècle, entre autres d'Olivia Kahn et Chloé Deligne, pour n'en citer que deux des autorices. Ça parle de sociabilité, ça parle de relations. Je pense que tu as noté aussi, Léonie, dans ton travail de terrain à Espace Test, le fait des sociabilités, des relations entre les personnes et le fait que ça soulève des questions dans le cadre de ta grille de lecture, ta grille théorique, l'écologie queer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de genre, de relations ?
Sociabilité, c'est pas sociabilité uniquement entre des humains humaines, c'est l'entendre au sens inter-espèce et voir ce qui se joue dans les pratiques à l'espace test. Quand les tisanières font pousser les fleurs et les herbes pour leur tisane, quelles pratiques elles ont du sol et à la culture. Tout à l'heure, tu parlais de médecine. Je me rappelle de discussions autour de la table qui tournaient quelles sont les propriétés de chaque tisane, etc. Et de voir un peu que ce qu'on cultive, c'est lié à d'autres histoires, en fait, aux histoires du sol, des insectes, des bactéries, jusqu'à des histoires plus traditionnelles ou culturelles de comment est-ce qu'on utilise ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça traverse nos corps.
Tout à fait, c'est des sortes de connivences interespèces, des manières de travailler ensemble ou de pratiquer ensemble, pour dire large. En parlant de sociabilité, je voudrais toucher au deuxième sujet de ton mémoire, le cruising dans les interstices, qui est précaire également dans ces espaces ouverts que nous propose la ville, que nous propose l'espace urbain. Tu parles du cruising entre autres comme un nomadisme du regard et de la marche, une flânerie érotique idéale que tout oppose au script contraint et calculateur du dragueur urbain. Citation d'ailleurs de Laurent Guessade, dont on avait entendu la voix tantôt dans les extraits de la conférence.
Oui. Oui, heureux hasard, ou pas, c'est juste personne.
Je crois que dans cette thématique-là, il est assez reconnu.
Oui, j'imagine.
Est-ce que tu peux, Léonie, nous parler un petit peu du cruising comme autre pratique qui a une situation précaire donc dans les espaces urbains, qui a une autre temporalité aussi, qui ne s'inscrit peut-être pas de la même manière dans un quotidien et encore, dans une saisonnalité certainement aussi, tout comme l'agriculture urbaine, mais qui se passe effectivement aussi en connivence avec les autres espèces, les autres humains, parce que je pense qu'il est question d'interstice, de se cacher, de jouer avec l'espace qui nous entoure pour pratiquer le cruising, finalement.
Je me suis intéressée au cruising parce que je cherchais une pratique, ou alors c'est une pratique qui s'est un peu présentée à moi aussi, d'échange dans un environnement non urbain. Enfin, en tout cas, je m'étais un peu mis ça comme critère, un sol qui n'est pas minéral. Mais ça, on me l'a un peu pas reproché, mais on m'a posé la question, mais finalement, pourquoi est-ce que tu cherchais ce contexte-là, non minéral, non marchand, est-ce que ça aurait pu être une autre pratique ? Et oui, ça aurait pu être une autre pratique, et il s'est trouvé que c'était celle-là, mais dans le cadre du cruising, ce que je trouve intéressant, c'est... de nouveau, il y a plein de petites anecdotes dans le livre de Matthew Gandhi, Écologie queer. Il prend comme exemple et comme terrain d'étude Abney Park, qui est un cimetière au nord de Londres, je crois. Et il nous dit qu'une des entomologistes, qu'il y a des entomologistes dans le cimetière qui s'intéressent aux insectes et qui croisent les dragueurs ou les personnes qui viennent commémorer leur mort sur les tombes présentes. Et que suite au rapport sexuel des dragueurs, dragueuses, il y a des spores fongiques qui se développent sur les tombes. Et c'est un peu ces choses-là qui m'intéressent, de voir comment est-ce qu'une pratique peut avoir une influence sur un environnement, comment un environnement peut avoir une influence sur une pratique. Un autre exemple aussi rigolo sur lequel j'étais tombée en écrivant le mémoire, c'est un collectif à Copenhague, au Danemark, qui a replanté des buissons, de nouveau, je crois, dans un cimetière ou dans un parc, je ne sais plus bien, mais des buissons qui avaient été déplantés par des politiques homophobes parce qu'il y avait des échanges la nuit dans ce parc-là. Et donc ce collectif avait mené une action pour replanter des buissons et contrer cette discrimination.
Et toi, dans le cadre de ta recherche sur le cruising à Bruxelles et donc des personnes que tu as pu côtoyer, dont tu te fais le relais, est-ce que tu as pu noter ou les gens t'ont transmis des exemples un peu de ces fameux interstices, de cette marge de façon très large pour un peu faire écho à ces exemples hors Bruxelles que tu as cités, qui sont très pertinents.
Du coup, par rapport à la culture du cruising, Laurent Guessade a beaucoup écrit dessus. Il y a des films, il y a des images, notamment je pense à Atome de Pékin ou au travail d'Amélie Landry qui est magnifique et qui est géographiquement beaucoup plus fluide que quand on parlait des agricultures urbaines tout à l'heure. Mais à Bruxelles, pour un peu mieux localiser où sont les endroits et les personnes, il a fallu, moi, rentrer dans le réseau, donc aller sur les forums d'échanges gays pour se donner rendez-vous, rencontrer des personnes qui pratiquent le cruising à Bruxelles. Donc ça s'est fait de contact en contact, comme ça. Et ça a fonctionné par la confiance, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se confier sur ces pratiques-là. C'était quoi ta question, déjà ?
Justement, est-ce que suite à ces rencontres, ces discussions ou ces observations, tu as noté des spécificités, des choses en marge? Le temps file, donc il y avait un troisième extrait de Laurent Guessade qui explique dans un parc toulousain, je crois, qu'en fait, lui qui se pensait que dans ce parc, ce cruising se passait la nuit, en fait, ça se fait aux heures de pointe, du coup, avec un autre public. Et donc voilà, c'est ce fait d'être un peu à côté et de se rendre compte qu'en fait, c'est à côté que ça se passe. Voilà, donc je me demandais si toi, tu avais
noté les spécificités bruxelloises.
Mais à Bruxelles, le Parc Royal est très connu pour ça, historiquement. Et ça, je crois que c'est de jour comme de nuit. Il est très fréquenté. Bon, j'imagine qu'il y a des heures de pointe, soirée du week-end. Mais après, il y a d'autres endroits. Là, je pense à Drève de Lorraine, par exemple, qui sont plus lié à des axes routiers. Donc
là, c'est Forêt de Soigne.
Comment ?
Drève de Lorraine, c'est Forêt de Soigne.
Ouais, c'est ça. Donc plus lié aux heures de pointe, ouais. Donc en fait, ça dépend
Et aux routiers, tu disais, hein, c'est ça ?
Ouais, okay. Ouais. Qui est lié à la géographie du lieu et à proximité de quelles infrastructures il est, comment est-ce qu'on l'atteint, comment est-ce qu'il est caché ou pas. Il y a aussi un petit square dans le centre qui est assez connu. Et là, pour le coup, ça dépend des horaires d'ouverture du square. Enfin, voilà, il y a un peu plein de paramètres à prendre en compte.
Et donc, la politique d'aménagement, finalement, permet ou ne permet pas aussi ces espaces avec ces certaines pratiques. Et ce que je notais, notamment par rapport au Parc Royal, c'est que dans un aménagement sécuritaire d'un espace ouvert, où justement, il y a une politique de visibilité, et d'avoir un regard, et je sais que pour avoir eu des échanges avec la police par rapport à des aménagements d'espace public, c'est toujours une question de pouvoir voir, mais c'est aussi une question de genre, en fait, de femmes qui ne se sentent pas en sécurité parce qu'elles n'ont pas de vision, parce qu'il y a des buissons, parce que la vue est cachée. Et pourtant, ces espaces de non-visibilité peuvent créer de l'invisibilité qui permettent en fait des pratiques à la marge, des pratiques qui sont à peu près caché, et que donc l'impact finalement de manière d'aménager l'espace public sécuritaire anti-sexe aussi peuvent réduire en fait les possibilités finalement de ce genre de pratique.
C'est drôle, ça me fait penser à, je sais plus dans quel texte c'était, mais c'était un peu écrit comme ça entre les lignes. Dans les parcs, de façon générale, tu as plusieurs strates comme ça, la strate herbacée plutôt basse, la strate arbustive et la strate arborée. Et la strate arbustive, donc tout ce qui est buissons, etc., elle a plutôt tendance à être skippée de l'aménagement et de la conception spatiale des parcs et des jardins parce que justement, elle cache. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire vive les buissons.
Les buissons aussi pour ce qu'ils peuvent apporter en matière de nourriture, etc. Enfin, tu parlais de petits fruitiers dans l'espace, à l'espace test. C'est aussi des questions de conception, d'aménagement, de paysager qui peuvent se poser finalement dans les manières de réfléchir la ville maintenant et pour la suite.
Et puis il y a aussi l'aspect stricto sensu financier, tout l'arbustif, eh bien il pousse, et donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Le tailler, et donc la taille, eh bien ça prend du temps, et cette taille, elle demande à être rétribuée en heures, et donc financièrement à ces entreprises qui entretiennent les espaces publics. Et donc, au moyen d'arbustes, au moyen de taille et au moyen de temps à devoir payer ces entreprises qui entretiennent les espaces publics. C'est aussi ça, cette réalité pour lesquelles, dans les nouveaux aménagements d'espaces publics, ils réduisent les haies, les arbustes à tailler. Hein. Donc ça, c'est aussi important à savoir.
Donc, laissons pousser et restons entreprenants dans l'espace public. C'est ça qui...
Mais ça dépend. Il y a des lieux où, oui, ils plantent des arbustes ou des arbustes qui sont faciles à laisser aller. Mais il y a plein d'endroits où ils ne plantent plus parce qu'on doit devoir se farcir la taille.
Votre discussion, là, elle me faisait penser à un truc, c'est parfois laisser aller est voulu dans le design urbain. Alors, je pense que le parc royal, Warren de Parc, a une conception un petit peu plus ancienne, qui voulait être monumental, objet d'État, vu qu'on construisait tout l'État autour pour remplacer un peu les différentes cours qui étaient. Mais il y a un cas intéressant, c'est le bois de la Cambre, le parc du bois de la Cambre, qui, dans son design, en fait, répond à l'époque romantique, donc où déjà on a envie d'avoir une expérience visuelle qui permet un petit peu de s'épancher à ses sentiments, etc. Donc c'est le sortir du 19e. Mais surtout, il est dit de cet endroit-là, c'était l'époque où Léopold II avait vraiment beaucoup de choses à dire sur le design urbain, qu'en fait, on l'a conçu pour... La coquinerie, pour les galipettes, quoi. La bourgeoisie pouvait vraiment être appelée, en fait. Alors, je ne sais pas si c'était du cruising pour occasionner une rencontre ou bien si c'était l'occasion d'emmener la personne qui nous intéressait, passer la prendre avec son calèche et son cocher discret et puis aller batifoler. Mais vraiment, dans ce parc, il a été vu comme étant un endroit pour
badiner. Donc, créons des parcs de badinerie, pour dire ainsi.
Là où le parc de forêt, lui, il a été designé pour surveiller les masses ouvrières. Enfin, bon.
Question de parc, question d'espace. On n'aura pas finalement We Are Nature en parlant d'espace ouvert.
Pour une bonne raison.
Oui, tout à fait. Donc, mesdames, messieurs, dernière nouvelle, je viens de recevoir un courriel de We Are Nature, donc de We Are Nature Bruxelles, pardon, de Fanny Vinet. Nous disons que malheureusement ce soir, ils sont dans la capacité de venir dans nos studios de 49 rue Saint-Josse, car ils sont au tison et au fer avec un cas juridique à devoir défendre ce soir avec leur avocat.
Parce que c'est le cœur de leur démarche actuelle, en fait.
Exactement.
Hein. Ils ont... Le 16 juin dernier, ils ont décidé de mettre en demeure le gouvernement bruxellois pour justement imposer un moratoire sur la destruction des espaces naturels et des puits de carbone de la région. Et la réponse était attendue pour le 15 septembre. Je pense qu'il y a eu des délais, mais là, il y a moins d'une semaine, donc l'avocat de We Are Nature Bruxelles a reçu la réponse du gouvernement bruxellois face à cette mise en demeure. Et qui dit que malheureusement, non, le gouvernement n'est pas en mesure de faire suite à cette demande. Et donc, c'est pour ça que la SBL prépare donc la prochaine étape du procès, donc qui consiste à faire comparaître le gouvernement bruxellois devant les tribunaux. Donc, on aura l'occasion de les inviter dans le courant des prochaines semaines ou mois à venir. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de monter et descendre
les cinq
escaliers. Voilà, les cinq. J'ai l'impression qu'il y en avait cinq. Voilà, ceci explique.
Les cinq volets et les cinq étages.
Voilà, pour des raisons techniques.
On est ici très haut, 49 rue Saint-Josse. Ouais,
très belle vue.
Très belle vue.
Peu d'espace vert.
Peu d'espace vert, tout à fait. Mais hein, une belle vue sur des tours. Soit, on parlait de We Are Nature et on parlait donc du mémoire de Léonie Jacquemin, donc sur. les interstices et les marges, ça fait penser, ça fait réfléchir finalement à la défense du territoire, des territoires, de nos territoires. Qu'est-ce que lutter pour un territoire ? Quelles sont les pratiques que nous mettons en place pour pouvoir être en relation finalement avec, avec les espaces qu'on habite, que nous habitons.
Et comment peut-être ces deux pratiques, on va dire, que tu as observées, mettent en place des dispositifs de lutte contre l'atteinte,
la spoliation.
C'est un beau mot, mais je ne sais plus ce que ça veut dire.
Spolier ? Eh bien, c'est ce qui se passe, par exemple, en Australie. Tu vois
C'est très explicite. Est-ce que tu peux élaborer, Greg ?
Eh bien, tu as des gens qui arrivent sur un bateau et qui voient d'autres personnes qui sont là depuis 40 000 ans et qui leur disent « Bah, barrez-vous !» Ça, c'est de la spoliation.
Donc, est-ce qu'il y a des luttes mises en place, que ce soit en termes de personnes pratiquant le cruising ou l'agriculture urbaine, justement, face à cette spoliation ? Est-ce que c'est clair, cette question ?
Pas tellement, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Moi, j'ai choisi ces deux pratiques parce qu'il y avait de l'intérêt perso, mais et c'était aussi un peu hasardeux, finalement, de les mettre, de les comparer comme ça l'une avec l'autre. Et ça aurait pu être d'autres pratiques. Vous pouvez réfléchir dans votre quotidien, quelles pratiques vous avez envie de découvrir ou de mettre en place. Est-ce que c'est en gardant les animaux de vos voisins voisines et en ramassant leur caca sur le trottoir, que devient ce caca, et le chien du voisin qui rencontre le chat de machin, de truc, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, tout ça, c'est un peu des prétextes pour se demander comment intervenir et tisser des interdépendances inter-espèces. Et du coup, j'aimerais lire un petit passage, si on a le temps.
Tout à fait.
Sur l'écologie queer, qui nous dit que l'écologie queer suggère une intrication entre les politiques, les institutions et les pratiques sexuelles, ayant eu un impact sur l'organisation et la régulation de la nature, comme un ensemble socialement produit de lieu, une approche hétéronormative hégémonique. En revenant au corps comme essentiel à la production spatiale de sexualité et de nature, l'écologie queer est une forme de résistance pour reconnaître la diversité sexuelle, de genre, comme possible lieu de nouvelles connaissances écologiques. En favorisant l'émergence du singulier et de l'anomalie, de nouvelles choses peuvent émerger et des adaptations. Et là, je pense, parce qu'on parle de genre et de sexualité, mais en fait, ça pourrait être aussi de nouveau d'autres anomalies, ou en tout cas de pratiques qui sont considérées comme divergentes dans l'espace public. Et je pense aux troubles mentaux, par exemple, aux personnes neurodivergentes, qui socialement sont très peu prises en compte.
Le cas au Parvis de Saint-Gilles, donc avec cette étendue depuis 2003 des terrasses et donc la tache d'huile de la gentrification. Et il y a un centre de santé mentale sur le Parvis de Saint-Gilles qui a failli se faire expulser par cette étendue et cette tache d'huile. Et heureusement, ils ont résisté parce que c'est important. Mais évidemment, les gens, les patrons, les taverniers, tout ça, ils étaient « Oh, mais ça fait pas propre. » Et puis, ça dérange les clients et les clientes.
Soyons pour la diversité des démarches à Bruxelles. Une manière de conclure cette émission.
Est-ce qu'on, vu qu'on a 3 minutes, est-ce qu'on finit en musique ou avec une lecture ?
Moi, j'ai une petite lecture, ouais.
Avec une lecture et on laissera la place à Réservoir Dub. On rappelle peut-être
105.4 FM, radiopanique.org.
Notre invité, Léonie Jacquemin, et son mémoire.
Au chevauchement des marges, si je retrouve le titre, au chevauchement des marges, ambivalence d'une écologie située au sein du contexte bruxellois. Léonie qui était avec nous ce soir, merci à toi pour ta présence. Je sens que tu cherches ta page. Mais
oui, ça y est, tu l'as trouvé. Du coup, c'est 2 petits extraits qui viennent de L'odeur des pierres mouillées de Léa Rivière, sur lequel j'ai envie de conclure, peut-être pour un peu dézoomer de ces problématiques d'aménagement urbain et de finir en poésie ou en tout cas avec des mots qui peut-être vont nous emmener ailleurs. Donc le premier extrait, il vient de Armes molles. Elles décrivent, prolongent, étoffent, décalent et se laissent être modelées, apaisées, bouleversées, encore, par les terres de leurs ancêtres. Elles disent les couleurs, les textures, les friabilités, comment les plantes y vivent, y poussent, ce qu'elles y transforment. Comment l'eau, les champignons, les autres animaux y négocient des formes de vie et de mort, les instabilités, les communs, les géomorphologies collectives. Il est question de laves, de croûtes terrestres, de colonisation, de corps déplacés, d'extraction, de minerais, de failles, de sécheresses, de pluies, de fer, de résurgence, de fertilité, de forêts, de cérémonies, d'architecture, de lichens, d'agriculture, de grottes, de gravures, de tombes, de vallées, de fonte des glaces, de cols, de fossiles, de saisons, de moissons, de moussons, de sources, de canaux, d'océans, de plateaux, de boues, de feux, des guerres, de tremblements, de sismicité, de densité, de cristallisation, de vitesse de refroidissement, de sédimentation, d'infiltration. Chaque histoire est toujours une histoire dont la composition est minérale. Elles disent que les histoires de sol sont des histoires de corps. Elles disent qu'une personne qui écoute est un monde et que le monde est une personne qui écoute. Des lesbiennes géologiques, elles racontent une histoire. Elles disent que les semis sont terminés, qu'ils auront besoin d'eau quand la rosée du matin diminuera. Elles disent que ce qui pousse plus tard est souvent surprenant.
Merci Léonie pour cette lecture de les pierres.
Les cailloux.
L'odeur des pierres mouillées.
L'odeur des pierres mouillées. Ouais. Mon Dieu, je ne retrouve plus mes pages. Il est l'heure de passer la parole à Réservoir d'Obs.
Et oui, et donc merci à tous, merci à toutes pour cette 60e émission de Bruxelles nous habite. On se retrouve le mois prochain, probablement le 23 novembre. Et
ne soyez pas trop mouillés.
Vivez les marges.
Ou au contraire, très mouillés.
Voilà. Merci Liévin à la régie.
Salut.
À bientôt.